Quelques annonces, d'abord pour ceux qui viennent à la messe en semaine, attention cette semaine, donc je prêche une petite retraite. Donc priez bien pour cette retraite d'abord, et ensuite messe tous les jours à 7h30, sauf jeudi. La fête de l'enfant prodigue, la messe sera à 7h, attention, donc tous les jours 7h30, jeudi pour messe de 7h. Attention aussi, pour ceux qui me suivent sur Internet, qui suivent la messe sur Internet, dimanche prochain en France, il y a un changement, je crois que c'est le changement d'horaire. Donc il y aura un décalage d'une heure par rapport à l'heure de cette semaine. N'oubliez pas aussi que j'ai placé sur le site Internet donc la liste des messes pour des retraites pour l'année 2021. Donc il y a 5 retraites qui sont inscrites sur cette liste. Alors, je vais vous lire les textes de l'Épître et de l'Évangile. L'Épître tirait de Saint Paul aux Corinthiens. Mes frères, je rends grâce à Dieu de ce qu'il a mis au cœur de Tite la même sollicitude que celle que j'ai pour vous, car non seulement il a fait bon accueil à ma demande, mais s'y est emporté avec plus d'affection par lui-même, il est parti son propre mouvement pour aller vous voir. Nous avons aussi envoyé avec lui un frère dont toutes les églises font l'éloge pour son zèle à prêcher l'évangile et qui de plus a été choisi par les églises pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de charité à laquelle nous travaillons pour la gloire du Seigneur et pour témoigner de notre bonne volonté. Notre dessein en cela est d'éviter qu'on puisse nous faire des reproches sur l'abondance de cette collecte à laquelle nous donnons nos soins, car nous nous préoccupons de ce qui est bien non seulement devant Dieu mais aussi devant les hommes. Nous avons également envoyé avec eux notre frère dont nous avons souvent prouvé le zèle en de nombreuses occasions et qui se montre encore beaucoup plus zélé maintenant à cause de sa grande confiance en vous. Qu'il s'agisse donc de Tite, qui est mon compagnon et mon coopérateur auprès de vous, qu'il s'agisse de nos frères, qui sont les apôtres des églises et la gloire du Christ, donnez-leur à la face des églises des preuves de votre charité et montrez que nous avons sujet de nous glorifier de vous. Se lève pour l'Évangile, suite du Saint-Évangile selon Saint-Luc. En ce temps-là, le Seigneur désigna encore 72 autres disciples et il les envoya devant lui deux à deux dans toutes les villes et dans tous les lieux où il devait aller lui-même. Et il leur disait, la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme les agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni chaussures, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord paix à cette maison. Et s'il s'y trouve un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Demeurez dans la même maison, mangeant et buvant ce qu'il y aura chez eux, car l'ouvrier est digne de son salaire. Ne passez pas de maison en maison, dans quelque ville que vous entriez, et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté, guérissez les malades qui s'y trouvent, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Asseyez-vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, bien chers amis, c'est donc aujourd'hui la fête d'un des quatre évangélistes, Saint Luc, qui était un disciple de Saint Paul. On dit que Saint Paul, je veux dire, Saint Luc est à Saint Paul, ce que Saint Marc était à Saint Pierre. Sans que l'évangile de Saint Marc reflète beaucoup plus la prédication de Saint Pierre. Alors que l'évangile de Saint Luc va refléter davantage la prédication de Saint Paul, parce qu'il a suivi Saint Paul. On sait peu de choses sur Saint Luc. Il n'était pas un apôtre. Vraisemblablement, c'était un disciple, on n'est même pas sûr. Ce qui est pratiquement certain, c'est qu'il n'a jamais connu notre Seigneur de son vivant. Il a vécu très vieux, parce qu'il est mort à 84 ans en Achaïe. Achaïe, c'est une province de Grèce. Il est mort en l'an 61. Il a écrit en grec, et c'était vraisemblablement un Syrien, d'Antioche de Syrie. Donc, en fait, on sait peu de choses sur lui. Par contre, ce que disent les pères est très intéressant. Ils précisent que Saint Luc était le disciple, ou l'équivalent d'un disciple, que la Très Sainte Vierge Marie préférait. Pour cela qu'on dit, les pères disent que l'évangile de Saint-Luc, c'était l'évangile de Notre-Dame. Ils disent aussi que l'évangile de Saint-Luc est l'évangile de la miséricorde, parce que Saint-Luc était médecin, et donc il était plus sensible peut-être que d'autres personnes à la misère humaine. Et donc c'est très beau de voir que les pères de l'Église associent à l'évangile de Saint-Luc la miséricorde d'être Sainte Vierge Marie, ce qui est tout à fait logique. Certains pères vont jusqu'à dire qu'en notre Seigneur Jésus-Christ, il y a justice et miséricorde, mais qu'en notre Sainte Vierge Marie, il n'y a que la miséricorde, il n'y a pas de justice. Bon, faut prendre la phrase dans le bon sens, bien entendu. Il est évident qu'une miséricorde qui ferait n'importe quoi ne serait plus une miséricorde, ce serait une faiblesse. Hein. Lorsqu'on fait miséricorde, ça veut dire qu'on pardonne. C'est évident que la première condition pour pouvoir pardonner à quiconque, c'est que la personne qui a offensé nous arrête de nous offenser. Même le bon Dieu, dans sa miséricorde, ne va pas pardonner à un pécheur qui continue de l'offenser. C'est du bon sens élémentaire. Mais la miséricorde, notre Sainte Vierge Marie, est très importante, je vous l'ai déjà expliqué, parce que notre Sainte Vierge Marie est celle qui nous amène à notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai retrouvé une vieille explication que j'aimais beaucoup du Moyen Âge. Bon, je ne sais pas si elle est historique, mais en tout cas, elle a été utilisée par les prédicateurs du Moyen Âge pour expliquer le rôle de notre Sainte Vierge Marie. Je vous la donne, je ne sais plus si je vous l'ai déjà donnée. Je m'excuse, je suis un peu vieux, je me répète. Tant pis pour vous. Mais c'est une explication qui est très belle. C'est l'histoire d'un roi. Un bon roi du Moyen Âge qui fêtait son anniversaire. Alors tous les gens du royaume viennent lui apporter des cadeaux. Alors, les grands du royaume viennent apporter des cadeaux extraordinaires. Et puis la réception avait lieu dans une grande salle du château. Alors il y avait tous les chevaliers du royaume et les grands du royaume qui étaient là en grands beaux vêtements, donnant des cadeaux magnifiques au roi. Et puis un pauvre paysan qui voulait aussi honorer son roi, qui arrive, lui il n'avait pas de beaux vêtements, il avait des vêtements de paysan. Il arrive au fond de la salle et puis il voit toute cette grande assemblée, il est très impressionné, puis il n'osait même pas s'avancer. Et à la droite du siège, du trône du roi, il y avait la reine. Est assise. Elle regardait l'assemblée, elle voit, repère au fond de la salle ce pauvre paysan qui arrive, qui a l'air bien, bien mal en point et qui n'ose pas s'avancer. Alors elle quitte son trône, elle se lève, elle traverse toute la foule, elle va droit au paysan. Et le paysan était tout contrit, il dit, ben voilà, moi je voudrais offrir aussi un cadeau au roi, mais j'ai presque rien. Et il monte ce cadeau. L'histoire dit qu'il avait offert comme cadeau, qu'il voulait offrir comme cadeau une rave magnifique. Les paysans savent mieux que moi, une rave, je trouve que c'est une espèce de betterave. Une rave magnifique d'une grosseur extraordinaire. Alors c'est tout ce qu'il avait. Alors la reine, dit l'histoire, prend la rave, la place sur un magnifique plateau d'argent et vient la porter elle-même, elle prend par la main, elle prend le pauvre brave paysan et amène elle-même à son mari, à son époux, au roi, la rave. Et à cause de la dignité de la personne qui lui présente le cadeau, évidemment le cadeau est accepté par le roi. Et c'est une très belle histoire que j'aime beaucoup expliquer aux enfants et aux grands-enfants qui sont les adultes, parce que ça nous aide à comprendre le rôle de notre Sainte Vierge Marie. Elle est celle qui... par laquelle notre Seigneur Jésus-Christ exerce sa miséricorde, puisqu'elle est médiatrice de toute grâce. La miséricorde, c'est une grâce, il est une grâce, c'est bien celle-là. Et cette miséricorde du bon Dieu est exercée par l'intermédiaire de la Très Sainte Vierge Marie. Alors, en ce jour, il nous faut beaucoup la prier, surtout la prier, c'est le texte de l'Évangile que je viens de vous lire, parce que la moisson est abondante, les ouvriers sont bien peu nombreux. Cette moisson, c'est la moisson des âmes, et les ouvriers sont ceux qui sont chargés par notre Seigneur Jésus-Christ d'amener aussi, à la suite de la Sainte Vierge Marie, d'amener les âmes vers le bon Dieu. Mais si la moisson est grande, les ouvriers sont de moins en moins nombreux, malheureusement. Et alors, il faut prier aujourd'hui, c'est le dimanche des missions, donc prions pour que la Très Sainte Vierge Marie nous obtienne justement de plus en plus d'ouvriers pour la moisson du bon Dieu. D'abord, pour que Dieu lui-même nous obtienne un pape. Dieu sait si nous avons besoin d'avoir une autorité. Si nous sommes dans une situation pareille dans le monde moderne, c'est précisément parce que depuis malheureusement la mort du pape Pie XII en 1958, nous sommes orphelins d'autorité. Étant orphelins d'autorité, comment voulez-vous que l'Église fonctionne normalement? Certes, le bon Dieu donne des grâces extraordinaires, mais la grâce ne détruit pas la nature, comme dit saint Thomas. Et si l'autorité n'est pas là pour organiser les troupes, eh bien, les troupes s'organisent un peu comme elles peuvent. Imagine une armée qui a perdu son général. Bon, ben, chacun s'organise un peu, mais ça ne peut pas fonctionner comme une armée qui est bien ordonnée sous la direction du général d'armée. Et donc, il faut prier. J'avoue que c'est un problème énorme. Je n'ai pas moi-même de solution pour ce problème, même quand nous avons des vocations, où envoyer nos vocations aujourd'hui. Quel problème. Je pense que l'Église a jamais été affrontée à un tel problème. Je ne sais vraiment pas moi-même comment diriger les vocations. Monseigneur Williamson pense, il a peut-être raison, qu'on est dans une situation telle que la plupart des jeunes, pas tous, mais la plupart des jeunes manquent beaucoup trop de maturité même pour envisager le sacerdoce. Et lui pense qu'à cause de la situation de l'Église, on ne peut même plus envisager la création d'un séminaire traditionnel. C'est possible. Je ne sais pas si c'est un peu trop pessimiste de dire ça, c'est possible. Je me demande si de plus en plus, il ne va pas falloir qu'on revienne un peu à ce qui se faisait dans l'histoire de l'Église avant l'arrivée du Concile de Trente. Hein. Les séminaires sont une œuvre relativement récente dans l'histoire de l'Église. C'est le Concile de Trente qui a commencé à exercer les séminaires, à organiser les séminaires. Avant le Concile de Trente, les séminaires n'existaient pas. Les étudiants étaient formés soit directement dans les universités de théologie et de philosophie, dans les grandes villes, soit étaient formés directement, au moins pour le bac clergé, qui a fait un travail extraordinaire, étaient formés directement par les curés. Les curés qui connaissaient leurs ouailles très bien. Quand ils connaissaient un jeune homme qui avait une certaine facilité pour les études, qui présentait des signes de vocation, le curé préparait lui-même ces jeunes. Et puis lorsqu'ils étaient prêts, ils recevaient d'abord les ordres mineurs, puis les ordres sacrés, passaient les examens théologiques et les examens canoniques pour pouvoir être ordonné prêtre. Ça donnait d'excellents prêtres. Et quoi qu'il en soit, il faut prier, prier pour les vocations, prier pour que le bon Dieu continue à appeler. Il est évident qu'il continue à appeler, parce que si il nous demandait de continuer le combat sans qu'il y ait de prêtre, ça voudrait dire qu'il nous demanderait quelque chose pratiquement d'impossible. Donc il faut prier pour que les vocations puissent devenir de plus en plus mûres, pour que le bon Dieu envoie de plus en plus d'ouvriers à sa vigne. Évidemment, la situation dans laquelle on est n'est pas très facile. D'ailleurs, notre Seigneur Jésus-Christ le dit lui-même dans l'Évangile. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il envoie ses ouvriers comme des agneaux au milieu des loups. Imaginez une meute de loups qui n'a pas mangé pendant 15 jours, une meute d'une vingtaine de loups, et au milieu, vous envoyez un petit agneau tout blanc. On ne sait plus ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va passer? C'est un peu la situation actuelle. Monsieur l'abbé, qu'est-ce que vous voulez que fasse cet agneau devant 20 loups? Bah, humainement parlant, il va se faire croquer par le loup, ça c'est sûr. Mais mon Dieu a d'autres idées en tête. Et mon Dieu va donner des grâces spéciales à ce loup pour arriver à faire son travail. Et arriver peut-être à convertir les loups. Pas bah, cet agneau faire son travail pour qu'il puisse même convertir les loups, on ne sait pas. Et donc, il ne faut pas se décourager, mais en même temps, voir d'une part l'étendue du désastre, et d'autre part l'immensité de la grâce du bon Dieu, et l'immensité de sa miséricorde. Le bon Dieu ne peut pas nous laisser nous abandonner, c'est absolument impossible. S'il nous abandonnait, ça voudrait dire qu'il nous demanderait une chose absolument impossible. Alors, s'il nous a créés, et s'il a mis comme but de notre vie le salut, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que Il donne à chacun d'entre nous les grâces dont nous avons besoin, justement, pour arriver à nous battre malgré les circonstances. On ne peut pas demander à quelqu'un de se mettre sur le chemin du ciel avec toute les croix à porter, sans donner à cette personne les grâces nécessaires pour porter les croix. On ne peut pas dire, ce serait un blasphème que de dire que le bon Dieu nous demande des choses impossibles. Le bon Dieu nous donne une mission qui est impossible, que nous ne pouvons pas réaliser. Parce qu'un général d'armée donne une mission délicate à un soldat d'élite, il lui donne en même temps les moyens de réaliser cette mission. Il va lui fournir les armes offensives et les armes défensives dont cette personne a besoin pour pouvoir justement faire son salut. Et également L'épître, c'est l'épître cette fois-ci du dimanche de la Pentecôte, qui est en mémoire aujourd'hui, le 20e dimanche après la Pentecôte. Il est dit que les jours sont mauvais et qu'il faut rattraper le temps. Qu'est-ce que veut dire cette phrase un peu bizarre? Rattrapons le temps parce que les jours sont mauvais. On croirait qu'elle a été écrite pour aujourd'hui, cette phrase. Rattraper le temps, je pense que ça veut dire rattraper tous les gaspillages de grâce. Une des choses les plus épouvantables que nous puissions faire, c'est gaspiller les grâces que le bon Dieu nous donne. Le bon Dieu, il faut comprendre ces choses-là, le bon Dieu donne des grâces par sa mère, mais très souvent, les grâces qu'il nous donne sont des grâces qu'on appelle les grâces conditionnelles. C'est-à-dire que le bon Dieu les prépare, mais qu'il faut aller chercher ces grâces. Elles ne vont pas nous tomber dans le bec tout cru, tout cuit, je veux dire. Et donc, le bon Dieu prépare des grâces, mais il faut aller les chercher. Il y a un certain nombre de choses que nous devons faire pour obtenir accès à ces grâces. Alors, c'est ce qu'on appelle des grâces conditionnées. Et ça doit être affolant le jour de notre jugement pour quelqu'un qui vient de mourir, de se rendre compte peut-être des milliers de grâces qui avaient été préparées pour lui, qui étaient à sa porte, et que cette personne ne s'est même pas donné la peine d'aller chercher parce qu'elle n'a pas voulu se baisser pour les ramasser. Et là, posons-nous cette question toute simple, est-ce qu'il n'y a pas, dans ma vie de tous les jours, des grâces que je n'utilise pas? Et si on n'utilise pas les grâces que le bon Dieu nous donne, comme le bon Dieu sait exactement ce qu'il nous donne, si je n'utilise pas une grâce que le bon Dieu a préparée pour moi, c'est ce qu'on appelle gaspiller des grâces. Et ça, c'est un péché gravissime. Gaspiller des grâces du bon Dieu. C'est comme quelqu'un qui nous fait un cadeau magnifique, pour nous même pas le cadeau. Quelqu'un nous fait un cadeau magnifique avec une chose dont on a absolument besoin pour arriver à continuer notre route, on ne se donne même pas la peine d'ouvrir le cadeau parce qu'on a d'autres choses à faire. C'est souvent ce qui se fait avec le bon Dieu. Et donc on voit très bien comment le bon Dieu a mis sur notre route toutes ces aides extraordinaires qu'on ne voit pas. Parce que souvent elles sont cachées. Où est-ce qu'elles sont cachées les grâces? On va se poser la question, où sont cachées les grâces que le bon Dieu a préparées pour chacun d'entre nous? Mais le problème, c'est qu'elles sont cachées sous la croix. Première chose qu'on voit, c'est la croix. Évidemment, la croix, c'est pas quelque chose de très facile à porter, pas quelque chose de très agréable à regarder. Et donc, il faut commencer par soulever la croix, et sous la croix, on découvre toutes les grâces qui sont cachées là pour nous aider à porter justement cette grâce, cette croix, pardon. Et donc, si je ne soulève pas la croix, je ne verrai pas les grâces qui sont cachées sous la croix. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais considérer la croix. Je vais complètement me décourager parce que cette croix me semble énorme et d'un poids incommensurable. Je n'ai jamais pu apporter un poids pareil. Et on ne se rend même pas compte que le bon Dieu commence à nous demander de soulever la croix et sous la croix sont cachées les grâces dont j'ai besoin pour la porter, justement, cette croix. Et ensuite, une deuxième chose qui va se passer, c'est que lorsque je commence à mettre la croix sur mes épaules, parce qu'il faut la mettre sur ses épaules, pas sur l'épaule du voisin, qu'est-ce que fait le bon Dieu? Il vient devant nous, il porte déjà une grande partie du poids de la croix. Et puis il y a sa Sainte Vierge Marie qui se met à l'autre bout de la croix, qui porte l'autre bout de la croix. On dit, c'est bien ça, comme ça tout le monde fait le travail, sauf moi. Moi je suis en regardant et en priant. Et voilà, bon Dieu porte la croix devant, la Sainte Vierge porte la croix de l'autre côté. Moi j'encourage tout ce beau monde. Mais non, parce que nous, on doit aussi participer à ce port de la croix, ce transport de la croix. Certes, le bon Dieu prend le plus grand morceau, le plus grand poids. La Sainte Vierge doit prendre un bon poids aussi sur ses épaules. Mais on a une participation. Même infime. Elle nous semble infime, cette participation qui nous est demandée par rapport au poids de la croix que notre Seigneur porte lui-même et au poids de la croix que notre Sainte Vierge Marie porte. Mais aussi infime qu'elle soit, cette participation est absolument nécessaire. C'est-à-dire, si je refuse de donner ma petite participation au port de la croix que le bon Dieu a préparé pour moi, je ne peux pas me sauver mon âme. C'est impossible. Alors évidemment, il faut, pour pouvoir porter la croix que le bon Dieu nous a préparée, il faut avoir le courage de ne pas trop poser de questions. Parce que c'est ça le problème. C'est qu'on veut bien porter la croix que le bon Dieu nous a préparée, mais à condition qu'on la porte à nos conditions. À condition qu'on puisse choisir le chemin, choisir les arrêts, choisir la façon dont nous allons porter la croix. Et c'est le bon Dieu qui choisit notre croix, c'est le bon Dieu qui choisit le chemin qu'on va suivre pour la porter, et le bon Dieu qui va choisir toutes les circonstances au milieu desquelles nous allons devoir marcher pour aller jusqu'au ciel. C'est lui qui choisit. Et il nous donne les grâces en fonction de ce qu'il a décidé pour chacun d'entre nous. Et c'est quelque chose qui est bien difficile à comprendre. Donc ne nous comparons pas ni d'un côté ni d'autre, soit au grand saint, soit au contraire au tout petit saint. Considérons que nous avons apporté notre croix dans notre degré de sainteté que le bon Dieu a choisi pour nous. Rappelez-vous la parabole des talents. C'est pas parce que le voisin a reçu 5 talents que je vais en recevoir 5 aussi. C'est pas parce que l'autre voisin n'a reçu qu'un talent que moi je vais en recevoir qu'un. J'en aurai un certain nombre que le bon Dieu a, tel que le bon Dieu a décidé pour chacun d'entre nous, parce qu'il sait encore une fois exactement, il sait exactement encore une fois ce dont nous avons besoin. Alors ne nous décourageons pas, mais je pense qu'en ce dimanche d'émission, il nous faut vraiment prier, prier pour l'Église. Prier pour l'Église, parce que ce que je vous ai dit pour les grâces qui nous concernent, s'applique aussi pour les grâces qui concernent les autres personnes. Les grâces sont aussi des grâces conditionnelles pour les autres personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bon Dieu a décidé de donner telle grâce à telle personne à condition qu'une tierce personne prie pour cette autre personne pour qu'elle puisse recevoir des grâces. Vous recevez, vous et moi, nous recevons, vous et moi, des certaines grâces. Peut-être parce qu'il y a une vieille grand-mère qui, quelque part dans l'histoire, notre histoire, a beaucoup prié pour son petit-fils ou sa petite-fille. Et à cause de ces prières de cette vieille grand-mère, qui semble insignifiante, à cause de ces prières, j'ai reçu les grâces dont j'avais besoin parce que cette grâce était dépendante de la prière de la vieille grand-mère pour chacun d'entre nous. C'est pareil pour nous. Peut-être qu'à côté de moi, il y a quelqu'un que je ne connais peut-être même pas, qui va recevoir des grâces spéciales à condition que je prie pour lui. Et le bon Dieu attend que je prie pour cette personne pour pouvoir accorder les grâces dont cette personne a besoin pour faire son salut. C'est ce que le prêtre fait à la messe. À la messe, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la messe? Renouvellement non sanglant du sacrifice du calvaire. La messe, c'est ça. C'est en quelque sorte le prêtre qui ouvre la porte. Saint-Dié de Purédas, c'est une expression très belle, du garde-manger des âmes, il disait. On ouvre la porte du garde-manger pour que les gens puissent venir se servir, s'ils meurent tous de faim autour de l'autel. Donc on ouvre la porte du garde-manger spirituel pour que nos âmes puissent se nourrir. Et donc, tout le monde est autour de l'autel, mais la porte du tabernacle est fermée, la porte du garde-manger spirituel est fermée, donc on ne peut rien faire. Donc qu'est-ce que fait le prêtre pendant la Sainte Messe? Il ouvre la porte. Et donc la Sainte Messe permet de donner à tous ceux qui sont autour de la messe, à savoir les fidèles qui assistent à cette messe, toutes les grâces dont ils ont besoin. La Sainte Vierge Marie va venir à côté de son Fils pendant la Sainte Messe et vous donner les grâces dont vous avez besoin. Grâces qui sont différentes pour chaque personne. Les grâces dont moi j'ai besoin comme prêtre ne sont pas les mêmes des grâces que vous avez besoin, dont vous avez besoin vous dans le monde. Et bon Dieu sait tout ça. Alors pardon, ne nous décourageons jamais. Prions Saint-Luc. Priant tous ces grands saints qui nous ont montré le chemin, et demandons cette grâce à notre Sainte Vierge Marie, puisqu'encore une fois, toutes ces grâces arrivent par elle, surtout le don de force. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de deux dons particuliers, le don de force d'abord pour nous battre, et le don de sagesse pour savoir comment nous battre. Il suffit pas de se dire on va se battre. On va se battre où? Comment? Dans quelles circonstances? Dans quelles conditions? C'est là où le don de sagesse va intervenir. Et que le don de sagesse et le don de prudence. Donc le don de sagesse, le don de prudence, la vertu de prudence, c'est la vertu cardinale de prudence, et puis le don de force, justement, pour nous aider à porter les stockades, et à nous protéger aussi des coups du démon. Alors ne nous décourageons jamais. Et prions la Très Sainte Vierge Marie pour qu'elle nous aide à persévérer jusqu'à la fin. Elle a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Sous-entendu, celui qui persévérera pas jusqu'à la fin, celui-là ne sera pas sauvé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.